Il avait pour devise « La vertu donne ce que l'apparence dénie ». Car en effet, de Rennes à Dinan, il était considéré comme le plus laid des enfants, noir, malotru, déplaisant, mais aussi goujat, niais et sot, tant et si bien que son père et sa mère le haïssaient. Mais parce que la nature ne l'avait pas gâté, il décidera de briller par la gloire des armes. Avec une volonté farouche de propager sa renommée et une détermination à ce que ses exploits soient chantés par les ménestrels et les héros de son temps et bien au-delà. Ainsi commença la légende du connétable chef des armées royales qui bouta les Anglais hors de France, j'ai nommé Bertrand du Guesclin. Mais connaît-on vraiment ce personnage de notre histoire nationale ? N'avons-nous pas été victimes d'une entreprise visant à créer une légende de son vivant même ? Les grands entretiens de Storia Voce vous proposent de démêler les cheveux complexes du vrai et du faux. Pourquoi la mémoire de Du Guesclin a-t-elle été augmentée autant que se pouvait, selon les propres mots du chroniqueur Froissart ? Afin de répondre à cette question, de faire la part du mythe, de la légende et de l'histoire, je suis heureux de recevoir Thierry Lasabataire. Thierry Lasabataire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes historien, donc docteur en histoire médiévale. Vous enseignez à l'université Paris-Sorbonne.
Enfin, je suis chercheur associé.
Vous êtes chercheur associé. Vous avez écrit une thèse, La Cité des Hommes, Eustache Deschamps, expression poétique et vision politique, sous la direction d'un grand médiéviste, un des plus grands médiévistes de notre temps, Philippe Contamine. Votre thèse a été publiée en 2011 et elle a reçu une distinction par l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Et vous venez de publier une biographie, peut-on dire, mais au-delà d'une biographie, comme nous allons le voir, consacrée à Bertrand du Guesclin. Du Guesclin vit et fabrique d'un héros médiéval un ouvrage paru aux éditions Perrin. Alors Thierry Lasabataire, vous commencez votre ouvrage, par une image, on a envie de dire complètement insolite. C'est-à-dire que quand j'ai reçu votre ouvrage, je l'ai ouvert, je commence à lire son introduction et vous parlez d'un fait complètement insolite qui est un attentat en 1977. En 1977, donc à la fin du XXe siècle.
Oui, effectivement, c'était insolite. D'ailleurs, l'effet est recherché, un petit effet entre guillemets littéraire sans prétention aussi, puisque le premier paragraphe est un paragraphe qui mime une scène de meurtre en quelque sorte, et le meurtre c'est aussi un paragraphe de flashback en quelque sorte. Donc on essaie de mélanger un peu l'histoire, la littérature, le cinéma, en forme d'amusement, et puis pour essayer d'éveiller l'attention du lecteur. Mais dans tout ça, en fait, il y a quelque chose de très sérieux. Le flashback, d'ailleurs, lui-même, est tout sauf innocent du point de vue historique. Et effectivement, si je suis parti de ce fait-là, c'est qu'il pose l'actualité de ce qu'est encore aujourd'hui Du Guesclin. L'actualité avec ces attentats multiples, d'ailleurs, perpétrés contre ses statues, sa mémoire, très très récemment, enfin au XXe siècle. Il y a eu l'attentat contre sa statue en 1977, c'est une statue de granit, je crois, et puis comme cette statue avait été précédée, ça s'est passé dans son village natal, Le Bron, comme cette statue avait été précédée d'une autre statue plus ancienne, qui avait été remisée à un moment, on a ressorti après 1977 la statue la plus ancienne, on l'a remise dans un endroit public et elle-même a subi les mêmes avatars finalement. Elle a également été victime de deux attentats en 1988 et 89, je crois, donc à peine plus tard. Et ce qui est bien qu'aujourd'hui, finalement, la mairie de Bron a dû se résoudre, provisoirement peut-être, je ne sais pas, à effacer, à laisser de côté la mémoire de Du Guesclin. Il est aujourd'hui l'objet encore de controverses très fortes. Parce qu'il incarne encore quelque chose dans l'actualité bretonne, hein. C'est évidemment la question de l'indépendance de la Bretagne, de la entre guillemets, de la trahison qu'il a pu perpétrer à un certain moment de son histoire. On y reviendra peut-être. Et en même temps, c'est quelque chose de très actuel. Pour l'anecdote, j'ai pu le vérifier très récemment, puisque à la suite, en commentaire d'un petit interview que j'ai donné sur le site web Brezinfo, en fait, j'ai eu pour seul commentaire de mon petit interview, il y aura toujours des gens pour... justifier le traître du Guesclin. Donc en fait, ce sentiment-là, cette incarnation-là, c'est encore quelque chose de très présent dans le débat breton.
Alors, par opposition, il fait partie du mythe national à une époque où l'idée de nation n'existait pas encore. Est-ce qu'il faut sortir du Guesclin de cette image d'Épinal que l'on a au fond et que l'on hérite de la fin du 19e et du début du 20e siècle ?
Moi, je pense que oui. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il faut le faire en toute objectivité. Alors, il faut le faire de deux façons. D'abord, en le tirant de l'image d'Épinal, parce que c'est un devoir que nous devons à la vérité, à l'objectivité, à notre devoir d'historien et puis de citoyen. On voit bien que ça pollue des débats actuels et sans doute de façon illégitime. Donc, il faut le tirer de ce malentendu. Et en même temps, il faut le tirer sans effacer cette part-là. C'est-à-dire qu'il faut la traiter pour ce qu'elle est. La dimension de l'image qui a été construite ou manipulée, il y a une part de volontaire et d'involontaire dans ce qu'a été l'image du Guesclin, sans doute, pour les uns ou pour les autres. Je pense qu'il ne faut pas la nier. Mais par contre, il faut l'affirmer pour ce qu'elle est. Il ne faut pas mélanger l'image, la construction et la réalité, entre guillemets, du Guesclin. En tout cas, il faut bien essayer d'aborder chaque chose pour ce qu'elle est. Il y a des interférences entre guillemets, la réalité et entre guillemets, l'image. Mais il faut essayer de faire la part des choses autant que faire se peut. Et je pense qu'il faut traiter ces deux vérités historiques en les séparant un peu mieux, justement, d'un point de vue méthodologique.
C'est votre ancien professeur, ancien directeur de thèse, qui a une belle expression, qui parle de mythe nécessaire.
Absolument. Oui, absolument. Donc, ça renvoie à deux choses à la fois. À la reconnaissance du statut de mythe du Guesclin. Et Philippe Contamine, qui est un grand spécialiste de la vie politique, de la guerre, de la noblesse, etc., de tous ces grands thèmes, et aussi de la naissance de l'État, enfin de tous ces thèmes fondateurs pour l'histoire du XIVe et du XVe siècle, c'est bien que, il sait bien à la fois à quel point du Guesclin a été un grand guerrier et à quel point... nombre d'effets qui lui sont attribués sont incontestables. Et voilà, il en a tout le mérite. Et en même temps, il sait très bien quelle est la part de mythe qui s'est greffée très rapidement sur du Guesclin. Je pense qu'en grand historien, évidemment, il sait qu'il faut traiter les deux. En même temps, ça, c'est la part du mythe. Et puis, il y a la part du nécessaire. Nécessaire pourquoi ? Parce qu'on est à un moment où au XIVe, XVe siècle, c'est probablement un moment charnière, c'est un peu facile de dire charnière, toutes les époques sont charnières, mais c'est quand même un moment très important dans la construction de l'État, à bien des égards. C'est un moment très important dans l'histoire, entre guillemets, nationale, pour anticiper un peu la naissance de la nation qui se fait un petit peu à ce moment-là, en partie en tout cas, parce que c'est la guerre de Cent Ans, parce que c'est une crise des identités, parce que donc c'est une réflexion juridique, par exemple, sur le statut de la couronne et puis par rapport à finalement aux querelles dynastiques, un certain nombre de questions de fond qui sont posées, dans ce moment de crise, fonderont finalement les évolutions de l'État, du royaume, de la nation, qui se poursuivront pendant les siècles suivants. Et donc, du Guesclin a incarné quelque chose d'essentiel, quelque chose de nécessaire, je crois. Et c'est sans doute à cela que renvoie l'expression de Philippe Contamine.
Alors nous allons y revenir après, notamment dans ses relations avec le roi, mais venons-en à l'histoire et surtout au contexte. Et vous disiez que c'était un temps de crise, les litanies disaient de la guerre, de la maladie, de la famine, délivrez-nous Seigneur. C'est un moment très important, un moment de crise, mais en même temps c'est un siècle, vous dites c'est le siècle du moi, de la conscience, j'allais dire dans l'histoire de l'intelligence, ce 14e siècle que l'on voit uniquement à travers le prisme de ces crises est un siècle qui génère des grandes idées.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est... Alors, est-ce que ça naît de la crise ? Probablement, mais enfin là, je ne vais pas développer beaucoup parce que ça dépasse mes compétences. En tout cas, on peut constater à minima que ce temps de crise très profonde, de renouvellement des générations profondes, rapides, etc., de confrontation très violente à la mort et quotidienne, ça également... susciter, favoriser l'expression du moi, la reconnaissance de peut-être de l'individualité, ça se mesure à sur plein de niveaux différents. Ça se mesure, alors je renvoie à des travaux de Philippe Ariès qui disait que par exemple la façon de vivre la mort, c'est une façon plus individuelle, pas forcément. Alors on fait référence souvent au macabre, etc. C'est pas forcément macabre en soi, mais en tout cas c'est une expérience qui est plus vécu de manière plus individuelle, toujours collectivement, mais comme un regard rétrospectif sur la vie, par exemple, donc avec une dimension plus individuelle qu'avant. Donc ça, c'est une des composantes. Mais bien sûr, il y a des composantes en littérature, par exemple. On sait bien que le 14e siècle, le 15e siècle, avec le développement de la poésie courtoise, etc., c'est un siècle où là, je renvoie plutôt à Daniel Poirion, par exemple, où on développe des modes d'expression déjà en germe au XIIIe siècle, mais qui permettent une surexposition du moi littéraire. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien connues aussi. Donc probablement il y a des parallèles à faire avec les arts, la peinture notamment. La musique, c'est peut-être plus difficile, mais en tout cas, il y a probablement ce développement important de la conscience individuelle, de la conscience du moi, de l'expression du moi, à bien des égards différents, dans bien des domaines différents. Et voilà, c'est effectivement ce qu'on constate dans ces temps de crise. Et si on lit, par exemple, Philippe de Machaut, si on lit Eustache Deschamps, ces poètes, c'est probablement aussi très lié à la crise, parce que la crise les interroge énormément. La crise interroge le côté éphémère de la vie, le côté la construction sociale. Guillaume de Machaut dit à un moment je veux plus sortir de chez moi, parce que évidemment c'est le moment de la peste noire, la première apparition de la peste noire. Donc il y a aussi, ça interroge très fortement la fragilité de la vie humaine, la fragilité des relations sociales, leur côté dangereux. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très complexe qui se joue à ce moment-là et qui a dû bien sûr favoriser l'expression du moi, l'exacerbation du moi d'une certaine manière.
Alors précisément, du Guesclin à cette conscience, hein, nous allons le voir, et pourtant par ses origines et j'allais dire par son aspect physique, son avenir était loin d'être fait. Quel est ce jeune personnage qui peu à peu va s'imposer par les armes?
Alors, d'abord, c'est un personnage qui est issu d'un certain milieu. Bon, rapidement, mais c'est important. Il est issu d'une famille qui est connue, qui est repérée, on va dire, en Bretagne, en Bretagne, c'est-à-dire du côté de Saint-Malo et Cancale, hein, plus précisément autour de Cancale, à partir du 10e ou du 11e siècle. On reconnaît ses premiers ancêtres. Pardon. Et c'est une famille importante de Bretagne, parce qu'on dit souvent que du Guesclin est un petit noble, etc. Bon, c'est largement vrai, mais il était fils d'une branche cadette d'une famille importante. Et la branche aînée donc, des du Guesclin est une branche importante, implantée donc près de Cancale, au Plessis-Bertrand, notamment, mais qui s'est éteinte au XIVe siècle. Les descendants, autant que je sache, sont essentiellement des descendants des branches cadettes à laquelle auxquelles appartenait Bertrand du Guesclin. Donc c'était l'aîné de l'une des branches cadettes du seigneur de Bron, et sa mère était possessionnée du côté de Sens de Bretagne, tout près de Rennes. Donc c'était des seigneuries déjà de moindre importance, hein, plus petites, mais c'était un noble modeste, mais bien implanté quand même dans l'aristocratie locale. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ça, c'est la dimension, on va dire, familiale. Autour de cette dimension familiale, il y avait d'ailleurs une dimension légendaire avec la légende du roi Équin, mais bon, on y reviendra éventuellement si vous voulez plus tard. Bien sûr, il y a aussi une dimension personnelle là-dedans. Alors, la dimension personnelle, on n'en sait pas grand-chose de son enfance. C'est ce que vous citiez tout à l'heure, c'est ce que nous dit Cuvelier essentiellement, et puis tous ceux qui l'ont ensuite utilisé et répété. C'est cette enfance, ce physique un peu disgracieux, cette enfance mal aimée, hein, ce désamour des parents, qui revient à longueur de vers de Cuvelier au tout début de sa chanson de Bertrand du Guesclin, qui est la source essentielle de la connaissance qu'on a de du Guesclin, et en particulier pour l'enfance du Guesclin, on n'a rien d'autre. Donc on est obligé de se fier à ça. Mais c'est là qu'il faut se méfier de ce que dit Cuvelier, parce qu'il peut y avoir il y a certainement une part importante de topos littéraire, par exemple. Donc ça, c'est la thèse, par exemple, de l'un de ses biographes en anglais, Richard Vernier, qui dit, ça c'est essentiellement un topos littéraire, et finalement, Bertrand du Guesclin, quand on compare son gisant à celui des rois de France, ou des reines de France, il n'est pas si laid que ça. Ça, on laissera chacun juge, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, là, il y a peut-être une part de topos littéraire bien connu, hein, par ailleurs, mais c'est quelque chose d'invérifiable. Donc c'est à chacun de se faire son opinion. Il faut juste avoir en tête, là, mener sur ce genre de témoignage, une investigation critique, voilà, garder son analyse critique, sa capacité critique. C'est-à-dire qu'effectivement, il était peut-être pas très beau, mais il y a une part de construction littéraire, et y compris dans le fait de, évidemment, d'en faire la cause de sa grande destinée, une espèce de préméditation, préméditation aussi d'une certaine manière. C'est sans doute de la construction bien plus qu'autre chose, bien sûr.
Il restera toujours, c'est ce que vous dites, hein, il restera toujours un marginal du monde aristocratique, ce jeune homme méprisé de tous, qui finit par obtenir l'estime universelle et la main d'une princesse. On a du mal à se représenter aujourd'hui un chef de guerre comme un chef de bande. Or, à l'époque, le monde militaire était dominé par ces bandes.
Tout à fait, oui. Alors là, ça renvoie effectivement à... on va dire à une double dimension. D'abord, il y a la dimension un peu rebelle de Bertrand du Guesclin dans son enfance, quand il menait les bandes d'enfants de son âge, quand il défiait l'autorité parentale, quand il défiait aussi d'une certaine manière le code aristocratique. Il était un petit peu un marginal, il n'a été réintégré véritablement d'après ce que nous dit Cuvelier, hein, là encore, il faut faire attention, il y a sans doute une part de topos. Il n'aurait été réintégré, l'évolution normale, de ce qu'est un aristocrate, un noble de son temps, que à partir des joutes de Rennes, c'est-à-dire un moment où il avait 17 ans, où il a fait ses preuves lors de joutes, et puis il s'est un peu au forceps réintégré dans la société aristocratique de son temps, en restant toujours un enfant terrible, mais réintégré. Bon, ça, c'est une dimension. L'autre dimension qui intervient plus tard, finalement, c'est quand même en pointillé la poursuite de ce que l'enfance nous laisse deviner. C'est effectivement cette promiscuité avec le monde des bandes, ceux qu'on a appelés un peu plus tard les routiers. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Alors, les routiers, on parle clairement des routiers, des gens de compagnie, dans les années 1360, ça a commencé sans doute un peu avant, et puis finalement c'est quelque chose qui se développe dans les pratiques militaires du temps, en lien partiel, mais en lien quand même avec le développement du mercenariat, par exemple. Donc ce sont des pratiques assez habituelles de gens qui finalement opèrent en bande, qui parfois se vendent aux uns ou aux autres, qui sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs d'affaires ou des entrepreneurs, comme disait Kenneth Fowler à propos de Hugh Calvelet, qui est un des contemporains, mais côté anglais, de Bertrand du Guesclin, qui a été aussi un de ses compagnons, à la fois un de ses adversaires et un de ses compagnons d'armes. Hugues Calvelet dit Kenneth Follard, c'était un entrepreneur de guerre, je crois que c'est son expression. Et Duguesclin, c'est pareil. C'est un entrepreneur de guerre qui était un chef très, très habile, un meneur d'hommes, et qui menait sa petite entreprise. Et on peut penser qu'il opérait en grande partie, sans doute, de son propre chef, pour le compte de différents clients, entre guillemets, le mot est impropre, hein, mais. Alors la question est de savoir quelle a été ensuite la part de fidélité dans ses choix, dans les choix de finalement des gens au service desquels il se mettait. Et on se rend compte qu'il y a une très grande fidélité. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui menait comme ça sa petite entreprise et se vendait au plus offrant. C'est pas ça. Mais dans les pratiques, il avait finalement, dans les pratiques guerrières notamment, dans le mode de vie, il avait les mêmes habitudes, il avait les mêmes pratiques que les gens de compagnie.
Mmh. Oui, vous dites la valeur du Bertrand du Guesclin se révèle au monde et sa fidélité personnelle s'achète. Peut-être est-elle ainsi moins naturelle que les biographes empreints d'idées nationales ont longtemps bien voulu l'écrire. Mais avant finalement cette fidélité, il y a toute une ascension sociale qui est extrêmement importante pour un personnage de l'époque, une ascension sociale et en même temps culturelle.
Oui, tout à fait. Ça, c'est bon. Alors là, c'est une, en quelque sorte, une question que j'ai posée un peu pour bousculer le mythe, oui. Pardon. Parce que le mythe, quel est-il là-dessus ? Le mythe est tout à fait valide, mais il est rétrospectif. Il est que Bertrand du Guesclin a toujours servi le roi de France et a toujours servi Charles de Blois, le candidat du roi de France au duché de Bretagne. Et il a également servi l'ensemble des proches de ces deux personnages, le connétable d'Espagne, Charles d'Espagne, et puis le connétable de France, pardon, Charles d'Espagne, et puis plus tard, vers la fin de sa vie, Louis d'Anjou. Et sans doute pour des raisons de liaison, enfin de fidélité personnelle. Donc ça, c'est un constat. Ce constat n'exclut pas, et c'est tout à fait valable, personne ne peut le nier, hein. Mais cela n'exclut pas qu'à un moment, il ait été possible qu'un autre chemin, qui choisisse un autre chemin, que d'autres aient pu penser qu'il pouvait acheter ses services. Et il y a un moment qui m'a intrigué de ce point de vue, qui est certes uniquement relaté par Cuvelier, donc là encore, il faut être prudent, mais qui est cette scène quand même de grande admiration réciproque entre Henri de Gromont, le duc de Lancastre, qui assiège Rennes en 1356 1357, qui est un très grand chef de guerre. À l'époque, c'est pratiquement le grand chef de guerre anglais. Il a gagné de grandes batailles, pardon, en Aquitaine dans les années 1345, la bataille d'Obroche notamment, de façon très brillante. C'est un grand stratège qui, en plusieurs occasions, a habilement profité, on va dire, des dispositions du champ de bataille, etc. Et il rencontre du Guesclin, qui est un personnage beaucoup moins important que lui, beaucoup moins connu, beaucoup plus jeune aussi, et rencontre du Guesclin au siège de Rennes. Siège de Rennes, du Guesclin lui résiste, aide Rennes à résister au duc de Lancastre, et finalement, ce sont les Rennais et du Guesclin qui auront gain de cause. Mais néanmoins, cette phase-là, c'est la phase d'une rencontre entre ces deux personnages, vraiment mêlée d'admiration réciproque, où du Guesclin fait ses grandes preuves de vertu chevaleresque, puisqu'il dispute des duels, il les remporte tous, des duels difficiles, plein de risques, et qu'il remporte tous. Et donc, il arrive à conquérir l'admiration du duc de Lancastre, d'Henri de Gromont. Et Cuvelier nous explique qu'Henri de Gromont lui aurait proposé, alors je ne sais pas si c'est Cuvelier, c'est peut-être d'autres sources complémentaires, mais que Henri de Gromont lui aurait proposé de l'adouber chevalier. Et Cuvelier nous montre que Henri de Gromont essaie de l'acheter à un moment, essaie entre guillemets de l'acheter, de le convaincre de se mettre à son service. C'est un moment où, comme vous le disiez, du Guesclin fait son ascension dans le milieu aristocratique, où on voit bien que le milieu aristocratique, c'est un milieu entre guillemets international, où les gens se respectent d'un bord à l'autre, où il y a des frontières qui disparaissent, les frontières de royaumes, etc., peuvent être amenées à disparaître, et en même temps où peut-être il y a une fluidité dans finalement le jeu des fidélités personnelles qu'on choisit de nouer ou pas. Mmh. Et il est possible que, donc, Du Guesclin a fait son ascension à ce moment-là, c'est très vraisemblable, et il est possible que certains aient pensé qu'il pouvait changer de camp, entre guillemets, ou que lui-même l'ait envisagé. Mais ça reste totalement une question gratuite. Hein. Rétrospectivement, on est obligé de s'en tenir au constat qui a été fait par tous, c'est qu'il n'a pas changé de camp, entre guillemets, il est resté fidèle à Charles de Blois et au roi de France. Mmh.
Alors, nous sommes à cette époque dans les années 1350, il faut attendre 1364, vous citez un chroniqueur, l'année que nous aurons honneur, 1364, hein, c'est vraiment l'époque où il vous le présentez un peu comme un diable, il inspire la crainte, il n'est pas beau, ça n'arrange rien, mais lui, il se sert de cette laideur, paradoxalement, pour confirmer sa renommée qui commence à se développer.
Exactement, c'est un diable, on retrouve le mot à ce moment-là, le développement du mot, alors là je cite encore Cuvelier, c'est le mot qu'on retrouve très fréquemment en longueur de vers chez Cuvelier à ce moment-là. On retrouve un petit peu avant Cocherel, un petit peu avant la prise de Mantes, donc ce moment de la lutte contre les Navarrais. Et c'est vraiment là qu'il apparaît, très peu de temps avant, et il arrive vraiment à longueur de vers. C'est un diable qui est très laid, et c'est un diable qui fait peur. Et je pense qu'il y a sans doute une fusion un peu littéraire des deux aspects. Il fait peur parce qu'il est laid. C'est une laideur terrifiante. Mais en même temps, il fait peur parce qu'il arrive à gagner bataille sur bataille. Il arrive à gagner des batailles de plus en plus importantes et parfois dans des conditions de plus en plus difficiles et de plus en plus improbables. Et donc, il commence à inquiéter probablement l'adversaire. Il fait peur parce que finalement il est d'une puissance guerrière presque, bon, je vais exagérer, mais enfin ça donne cette impression là, un peu surnaturel, un don guerrier un peu surnaturel, c'est cela aussi qui fait peur. Donc je pense que c'est un ensemble, la peur, la laideur, l'espèce de puissance guerrière qui s'incarne dans Du Guesclin à ce moment là bien sûr, là encore, il y a de la reconstruction de la part de Cuvelier, mais il est clair que ça recoupe un moment de sa carrière où Du Guesclin a vraiment fait ses preuves, a vraiment remporté des victoires de plus en plus importantes, des victoires certes très locales au départ, mais avec une intensité dans les années 1362, 1363 en Bretagne, dans l'Anjou, le Maine, etc., un peu partout, finalement aux frontières de la Bretagne, de la Normandie et puis du Perche, de la région d'Alençon, du Maine. Il mène des combats partout, on se demande comment il a pu faire. Enfin, là aussi, ça, on a l'impression qu'il est surnaturel, puisqu'il arrive à être presque en plusieurs terrains à la fois, non d'ubiquité. Ça pourrait donner cette impression-là. Il a eu une activité incroyable à ce moment-là, sur des terrains plutôt locaux. Et en 1364, c'est la période des grandes batailles, des grandes responsabilités dans une campagne décidée par le roi contre son adversaire, son cousin et adversaire Charles de Navarre, dit Charles le Mauvais. Et là, effectivement, préparé par tous ces premiers combats si nombreux d'avant-garde, Du Guesclin prend des responsabilités et donc accède à un autre statut et franchit un pas dans sa carrière.
Je reçois Thierry Lassabatin, auteur du livre Du Guesclin, vie et fabrique d'un héros médiéval, paru aux éditions Perrin. Nous sommes sur l'année 1364, c'est une année très importante parce que même pour, j'allais dire, la question bretonne, il y a la bataille dorée qui, dans la vie de Du Guesclin, est véritablement un marqueur.
Absolument. Alors, c'est l'année de la bataille de Cocherel, qui est une grande victoire, et qui est suivie immédiatement après par la bataille dorée, qui est une grande défaite, et une défaite particulière. Peut-être plus encore que Cocherel, c'est une bataille décisive, c'est ce que disait Michael Jones, il y en a peu, et celle-là est une bataille décisive. C'est une bataille qui règle son compte à la fameuse querelle, à la longue querelle de succession au duché de Bretagne, donc qui opposait Jean de Montfort à Charles de Blois. Charles de Blois qui était l'époux de Jeanne de Penthièvre et donc à ce titre qui reprenait ses prétentions à la succession au duché de Bretagne. C'était une bataille fratricide terrible qui avait déjà fait de nombreux morts. Mais on arrive à un moment où, en tout cas, si l'on en croit Froissart, sans doute de part et d'autre, on avait décidé d'en finir. Les voies de la diplomatie avaient été épuisées, peut-être un peu parce que certains avaient sapé les derniers efforts pour arriver à une solution négociée. En tout cas, au moment où la bataille de Doré se produit, il y a quelque chose d'inéluctable qui se passe. Et donc, là, effectivement, Du Guesclin était en quelque sorte le chef opérationnel de l'armée des Blésistes, c'est-à-dire c'est une armée franco-bretonne, pour faire simple. Face à lui, il avait un autre chef de guerre d'une grande valeur stratégique, tactique, c'était John Chandos, qui, lui, était le chef opérationnel, plus encore d'ailleurs, le véritable chef de l'armée anglo-bretonne. Là, au profit, en tirant profit plus exactement des particularités du terrain, en particulier du fait que on se situait en terrain entre guillemets marécageux, avec un loch tout prédoré qui a gonflé au cours de la bataille et qui empêchait la retraite des Français. L'armée de Charles de Blois et de Bertrand du Guesclin s'est fait attirer dans une espèce d'impasse, de guet-apens. Elle était supérieure en nombre, et malgré tout, les manœuvres anglaises ont fait que l'armée franco-bretonne, l'armée blésiste, a été décimée, et sans aucune chance de fuite, de retraite. Et c'est en ce sens que, véritablement, on peut penser que c'était prémédité, en ce sens, en tout cas, que la bataille a été vraiment décisive. Elle a été d'autant plus qu'au terme de la bataille, Charles de Blois a trouvé la mort sur le champ de bataille. Alors, sur le champ de bataille ou après la bataille, à côté du champ de bataille, est-ce qu'il a été assassiné? Ça, c'est ce que sa fille, son parti, sont les rumeurs qui sont développées peu après. Je ne sais pas quelle est la part de vrai, mais en tout cas, la mort de Charles de Blois au cours de cette bataille est également un élément extrêmement important et qui a contribué à la rendre décisive.
Alors, entre 1364 et l'année où il est nommé par le roi Connétable, il y a tout un épisode qui est un épisode extrêmement important, qui est l'épisode espagnol. Vous y consacrez quasiment une centaine de pages. Et là encore, on a du mal à se représenter le fait qu'un homme comme Du Guesclin soit sur un théâtre aussi éloigné. Quelle en est la raison ?
Alors, il n'était pas forcément prédestiné à opérer en Bretagne, encore que la légende nous dit que, c'est là que j'en reviens à la légende du roi Hakin dont j'ai un petit peu parlé au début, en évoquant ses origines familiales. Cette légende disait que, en fait, il était descendant d'un roi mort, qui aurait débarqué au Xe siècle en Bretagne, et qui, même un petit peu avant, puisque en fait ce sont les armées de Charlemagne qui l'en auraient délogé. Et il aurait laissé dans sa fuite son fils cadet, qui aurait été donc recueilli par Charlemagne et ses pères. Donc le roi mort s'appelait Hakin, et donc Bertrand du Guesclin serait son lointain descendant, et c'était un roi qui était supposé être originaire du royaume de Bougie. Alors ça se situe quelque part aux frontières de l'Algérie et du Maroc actuel. Et donc, finalement, en tout cas, certains textes nous disent que quand il part en Espagne, Bertrand du Guesclin avait aussi un objectif personnel, c'était de reconquérir son royaume, son très lointain royaume d'outre-mer, donc de passer carrément la Méditerranée. Donc il y avait une première opération qui était prévue en Castille, ça, cette opération a bien eu lieu. Il y avait une deuxième opération qui était prévue au royaume de Grenade. Il s'agissait de reconquérir le royaume de Grenade, qui était le résidu tenu par l'islam À ce moment-là, à la fin du XIVe siècle. Et puis, il y avait des projets, mais on le sait, parce qu'il y a des documents administratifs qui attestent que du Guesclin a négocié le prêt de navires pour traverser la mer avec le roi d'Aragon, avec Pierre le Cérémonieux. Donc on est à peu près sûr qu'il y avait aussi un projet d'aller un peu plus loin, de l'autre côté de la mer. Alors, est-ce que ce rêve personnel ou cette légende personnelle ont véritablement joué un rôle dans la mission de du Guesclin en Espagne, c'est pas certain. Ça peut être là encore une part de reconstruction. Mais en tout cas, on est obligé de constater que plusieurs textes nous en parlent. Pas tellement Cuvelier, cette fois-ci c'est plutôt Froissart qui nous en parle. Et donc, bon, voilà, ça fait partie aussi du mythe avec sa part de réalité ou de reconstruction. Alors, pour le reste, on connaît bien les motifs, les motivations, les raisons de l'expédition d'Espagne. Elles n'ont rien à voir, elles n'ont rien de personnel pour le coup. Enfin, donc, peut-être que du Guesclin a greffé quelque chose de personnel là-dessus, mais les vraies raisons, elles sont ailleurs. Elles sont toutes politiques. Il s'agissait pour Charles V et le pape. Et le roi d'Aragon de se débarrasser d'un personnage gênant, encombrant, qui s'appelait Pierre Ier le Cruel, roi de Castille, qui était plutôt, à ce moment-là en tout cas, un allié objectif des Anglais. Et donc on a décidé de le remplacer par son cousin, adultérin qui s'appelait Henri de Trastamare, comte de Trastamare, et donc qui a été envoyé à la tête d'une armée financée par Charles V, financée par le pape et par le roi d'Aragon pour déloger Pierre de Castille. Alors bon, Pierre de Castille, Pierre Ier le Cruel était un plutôt un allié objectif des Anglais, donc on voit bien l'intérêt de Charles V. Il était aussi un personnage qui avait mauvaise réputation du point de vue religieux, parce qu'il était un peu œcuménique, très largement œcuménique, c'était pas très bien vu à l'époque. Il accueillait à sa cour des juifs, des musulmans, plus peut-être que des chrétiens, en tout cas c'est la mauvaise légende qu'on lui faisait. Donc ça pouvait motiver effectivement le pape, et puis le Pierre le Cérémonieux n'en pouvait plus d'avoir à subir une guerre permanente contre la Castille, hein, c'est les tentatives de grignotage territorial de Pierre le Premier. Donc Pierre le Cérémonieux, le roi d'Aragon, avait tout intérêt lui aussi à se débarrasser de ce personnage gênant. Donc voilà, cette coalition a nommé un objectif qui était de détrôner Pierre le Cruel, mettre à sa place Henri de Trastamare, et il fallait un chef militaire efficace pour cette opération. Alors Henri de Trastamare était un bon militaire, enfin il fallait quelqu'un qui ait une vraie envergure militaire et qui soit surtout capable de rassembler des routiers, des bandes de mercenaires, parce que ça c'est un objectif que j'ai oublié, il s'agissait aussi de vider le royaume de France de ses mercenaires inoccupés depuis le traité de Brétigny, ça c'est très important bien sûr, et donc il fallait un personnage qui sache parler à tous ces routiers. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il était un peu entre les deux mondes du Guesclin, donc il savait bien parler aux routiers. Il avait ses amis Hugues Calvelet et d'autres entrepreneurs de guerre comme lui, et donc c'était le personnage idéal pour mener du point de vue opérationnel cette expédition d'Espagne.
Et cette expédition sera finalement un échec ?
Dans un premier temps. Uniquement dans un premier temps, puisqu'elle conduira à une première victoire dans un premier temps. Très rapidement, Pierre Ier, oui, le roi de Castille, est chassé de sa capitale. Il est poursuivi jusqu'à Séville, et puis il réussit à s'enfuir, mais le royaume est très rapidement conquis par les armées d'Henri de Trastamare et de Bertrand du Guesclin. Mais ce que fait Pierre le Cruel, c'est qu'il va demander l'aide à Bordeaux au prince noir, au fameux vainqueur de Poitiers. Donc il réussit à convaincre bon an mal an le prince noir de lui venir en aide. malgré les réticences de pas mal de chefs, de capitaines de l'entourage du prince noir, dont John Chandos, qui apparemment voyait d'un très mauvais œil le personnage de Pierre le Cruel et puis la perspective de l'expédition en Espagne. Mais en tout cas, l'expédition se fait et ça conduit donc le prince noir traverse les Pyrénées avec ses armées d'Anglais d'Aquitain, enfin de Gascon, et il se trouve face à Henri de Trastamare et Bertrand du Guesclin à Narrera. Et là, à Narrera, c'est une débandade quand même, notamment des soldats espagnols qui n'ont absolument pas des techniques de guerre appropriées pour affronter des fantassins lourds ou des guerriers lourdement armés comme les Anglais ou comme les Bretons. Donc l'aile bretonne, l'avant-garde bretonne conduite par du Guesclin résiste bien, mais c'est la seule. Pour le reste, c'est une débandade généralisée, notamment des cavaliers légers espagnols qui étaient en très grand nombre, mais vraiment absolument pas habitués à ce genre de combat, et qui prennent fuite très rapidement. Donc Henri de Trastamare réussit à s'enfuir. Ce n'est pas le cas de Bertrand du Guesclin, qui lui connaît une captivité supplémentaire, parce qu'il en avait connu déjà plusieurs, notamment à la suite de la bataille d'Auray, mais là il en connaît une supplémentaire qui lui vaut une rançon légendaire. Mais voilà, ça c'est le premier temps de la bataille de Castille. Mais il y a un deuxième temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'il réussit à racheter sa liberté, il réaccompagne Henri de Trastamare, on recommence tout, et Pierre le Cruel de son côté, qui a été réinstallé par le prince noir sur son trône, a été tellement ingrat vis-à-vis du prince noir que celui-ci s'est retiré et décide de ne plus jamais intervenir en Espagne et le laisse donc Pierre le Cruel face à ses problèmes. Et là, la deuxième conquête est la bonne et se termine par le meurtre un peu illégitime quand même de Pierre le Cruel. Si je puis dire un peu, évidemment tout meurtre est illégitime, mais vraiment entaché d'une illégitimité politique profonde. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a une reconstruction qui vise à maquiller l'illégitimité politique de l'opération même de destitution de Pierre le Cruel.
Alors, il est nommé connétable, et là, au fond, c'est l'apogée, en quelque sorte, de sa carrière. Et à la lecture de votre ouvrage, on est fasciné de voir que ce personnage a une telle aura qu'il en vient à concurrencer même le roi de France.
Oui, alors d'ailleurs, dans l'imagerie populaire, c'est un peu le cas, parce que d'une certaine manière, il est l'alter ego de Charles V, il est son bras armé. C'est un peu l'image qu'on a retenue de lui. Il est le bras qui peut agir sur les champs de bataille, alors que Charles V, qui physiquement est un roi un peu affaibli, n'intervient plus depuis très longtemps sur les champs de bataille. Puis c'est pas son truc. Hein. Il avait connu la débandade de Poitiers. Ça lui avait suffi d'une certaine manière. Donc du Guesclin est le bras armé de Charles V. Mais là, vous faites allusion, au-delà de ça, à deux variantes deux versions du texte de Cuvelier que j'ai essayé de comparer pour voir dans quelle mesure il y en a une qui va quand même plus loin dans ce désinvestissement de la personne royale au profit de du Guesclin. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui s'en tient à peu près à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que du Guesclin est le bras armé de Charles V sur les terrains. Et donc, il y a un bon partage entre les deux. Charles V, c'est l'éminence politique, et puis du Guesclin, c'est celui qui exécute ses ordres, en quelque sorte, qui se met au service, qui met son épée au service du roi de France et qui conquiert les châteaux, qui remporte les champs de bataille, etc. Bon, ça, c'est la première version. Mais la deuxième version de Cuvelier va un peu plus loin. Elle capte au profit de du Guesclin des inspirations politiques même, c'est-à-dire, on voit deux, trois exemples. Par exemple, l'idée de faire élire le connétable de France par les corps constitués du royaume, en quelque sorte les bourgeois de Paris, et puis les grands corps, les officiers, les nobles. Donc les grands corps constitués du royaume, ça c'est une idée qui n'est pas propre, qui ne vient pas du Guesclin, qui a été mise en œuvre auparavant pour des offices d'un niveau un petit peu moindre, et qui sera une pratique très courante du règne de Charles V, qui va appliquer à son chancelier, notamment ses différents chanceliers ont été élus par les corps constitués, en tout cas élus au sens où, à minima, on demandait leur avis à ces corps constitués, et que donc le roi suivait cet avis. Eh bien, dans la chanson, dans l'une des versions de Cuvelier, on attribue ce mérite à Bertrand du Guesclin. De la même façon, la stratégie militaire qui consiste à laisser l'adversaire s'épuiser, un peu la politique de la terre brûlée, à financer des armées structurées, à réorganiser l'armée, à financer une espèce d'armée permanente qui voit le jour à l'époque de Charles V. Ça, c'est également attribué à Bertrand du Guesclin, alors qu'en fait, Philippe Contamine notamment montre bien que ça a été les prémices, on en voit les prémices avant, dans les années 1368-1369, si je me rappelle bien, alors que du Guesclin est, comme vous le disiez, voilà, tout à l'heure, sur un tout autre théâtre d'opération très très loin en Espagne. Donc voilà, on pourrait multiplier d'autres exemples, y compris la dimension littéraire qui joue des artifices littéraires, rhétoriques, de la chanson des gestes, pour bien mettre en évidence ce tableau d'un du Guesclin tout à son avantage, et qui véritablement capte l'héritage politique cette fois, et pas seulement militaire, de Charles V. Donc c'est intéressant de voir jusqu'où peut aller en quelque sorte la récupération, parce qu'il y a sans doute une bonne part de récupération là-dedans, et d'objectiver finalement, par la différence entre les textes, d'objectiver cette part de construction qu'il peut y avoir dans un texte et pas dans un autre.
Mais c'est un personnage qui garde le sens de l'État. Est-ce qu'on peut parler à cette époque d'État ?
Oui, je pense qu'on peut parler d'État. Raymond Cazel, alors l'État, le mot n'est sans doute pas à l'époque employé dans ce sens-là.
La fidélité en tous les cas au service, au roi.
Absolument. Raymond Cazel associe la notion de l'État à la symbolique de la couronne. Très probablement, on commence à concevoir l'État comme une dimension, enfin voilà, comme une entité en elle-même. Un peu plus tard, au moment en 1420, à la suite du traité de Troyes et de l'exhérédation de Charles VII par Charles VI au profit d'Henri V, des juristes s'empareront du thème pour expliquer que la couronne, et c'est toujours le mot qui est utilisé, n'est pas l'héritage personnel du roi. Donc il y a cette réflexion sur une entité qui n'appartient pas au roi en tant que personne physique, et donc on peut penser que oui, c'est une notion qui commence à émerger à ce moment-là. Et notamment Bertrand du Guesclin en avait-il la notion? Je pense que oui, très probablement, et en tout cas il a été entre guillemets utilisé comme l'une des incarnations de cet État, très 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 clairement, notamment au moment des fêtes de 1389 en son honneur à la basilique de Saint-Denis. Il sera érigé comme le modèle du serviteur royal, de ce qu'est la fonction du connétable, indépendamment de la personne, indépendamment même du roi et de la famille royale, puisqu'on voit bien que, y compris dans l'organisation de ces fêtes, il y a une espèce de dissociation qui est organisée entre la procession de la famille royale et puis la procession des grands corps de l'État, et que donc la fonction publique, entre guillemets, puisqu'on peut aussi, qui incarne, qui représente l'État, eh bien, elle est donnée, montrée par elle-même, pour elle-même, et même elle prend le pas, aussi bien dans certains écrits que dans ces cérémonies dont je parle, à Saint-Denis, ceux qui en sont dépositaires à un moment donné, les princes, les rois, et aussi les grands officiers en tant que personnes physiques. Il y a vraiment la notion de fonction, Françoise Autran par exemple l'a bien montré, mais parmi d'autres, cette notion de fonction du service du roi, du service de l'État, de fonction des grands officiers, qui indépendamment du roi, des personnes physiques, incarne la permanence de l'État, la réalité de l'État.
Eh bien, c'est sur ce modèle de serviteur que nous allons laisser nos auditeurs. Merci beaucoup. Thierry Yana Sabater, d'être venu au micro de Storia Voce. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Du Guesclin, vie et fabrique d'un héros médiéval, paru aux éditions Perrin. Je voudrais aussi remercier les deux personnes qui ont rendu cette émission possible, Amandine et Vianney. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux grands entretiens de Storia Voce.